l'impression que j'ai en lisant votre texte, c'est quand même un petit pessimisme de la perception qu'avaient les jeunes du monde d'aujourd'hui. Et donc, vous le posiez au désir.
Ah, c'est clair que lorsque je suis arrivé, avec les collégiens, pas trop, mais quand je suis arrivé au lycée de Bavilliers, que j'ai commencé à parler du désir, les mots qui sortent tout de suite, c'est impossibilité, c'est frustration, enfin c'est censure, ils vivent dans une espèce de monde très anxiogène, avec une accumulation de difficultés qu'ils voient que les étudiants ne trouvent pas tous une place en fac, ils voient le chômage, ils voient l'environnement qui est la planète qui fout le camp, ils voient le terrorisme. Là, je ressens qu'on est dans une génération différente. Moi, dans ma génération, il y avait une espèce de tout était possible, on inventait ce qu'on voulait, on changeait le monde, etc. Et on avait des désirs qui étaient sans fin. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'aligner dans leur tête des possibles en fonction de ce qu'ils croient être possible. Donc, ils capitulent déjà. Quand ils sont enfants ou préadolescents, ça va encore parce qu'ils sont encore dans une certaine innocence, une certaine naïveté. Mais dès qu'ils arrivent au lycée, il y a comme une espèce de chose qui leur tombe dessus, où ils voient que finalement, on ne fera pas ce qu'on veut, on ne fera pas comme on veut. Et donc, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, qu'il faut qu'ils reprennent courage. C'est pour ça que j'ai démarré ce projet, en fait, à l'issue d'une rencontre avec une jeune qui me disait qu'elle ne voyait pas le bout de sa vie, quoi. Enfin, qu'elle ne voyait pas où sa vie la conduisait. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible qu'à cet âge-là, on est déjà... Elles auront le temps de la déception, des difficultés, des obstacles, du désamour, du travail qui n'est pas ce qu'on veut tout à fait, je ne sais pas quoi, ou de prendre conscience de lutte, etc. Mais à cet âge-là, il faut qu'elles aient envie de tout, quoi.
Un titre comme ça, elle s'écoule. Qui est-ce qui s'écoule? C'est le temps?
C'est la vie qui s'écoule malgré. Alors, si vous voulez, dans la question du désir, il y a d'abord une sorte de précipitation. Il y a des doutes, il y a une envie de tout, et puis après, on ne sait pas comment, et puis c'est une énigme. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas comment ça arrive en soi. On a des désirs, mais on ne sait pas où les porter. Par exemple, ils ont un âge où ils sont amoureux avant de savoir de qui. C'est génial. Enfin, ils sont d'abord amoureux, et puis ils se demandent sur qui ça va tomber. Alors, ils sont amoureux d'un garçon ou d'une fille pendant 15 jours, puis après ça change. Un autre, puis après un autre. Donc il y a une espèce de pulsion amoureuse qui est née avant même l'objet du désir. Donc, et je trouve ça assez merveilleux, cette espèce de désir de désir. Enfin, ils désirent désirer, quoi. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils vivent tout ça, c'est-à-dire des déceptions effroyables, des dépressions incroyables, presque des envies de se suicider, puis des moments donnés de jubilation où ils ont envie de tout, etc. Pendant ce temps-là, la vie, c'est... Et je trouvais ça bien d'avoir un titre qui parle d'abord de la continuité, de comment est-ce que finalement nous avons géré nos désirs et comment nous les gérons encore dans quelque chose qui finalement ne s'arrête pas, qui s'appelle la vie.
Réunir 140 musiciens plus une chorale, comment on fait? Comment on agrège toutes ces personnalités ensemble?
D'abord, on se dit avec qui on a envie de travailler. Donc, j'avais envie de travailler avec des jeunes. Donc, je suis allé j'ai choisi un collège. Je suis allé parler à plein d'enfants en sixième. Je leur dis, qui c'est qui veut passer 2 ans avec un compositeur? Il y en a 18 qui ont levé le doigt. C'est incroyable. Donc là, il faut dire qu'ils ont encore le sens de l'infini, de l'utopie ou du mystère. Bon, après, on a rassemblé tous ceux qui voulaient dans une classe en cinquième. Sauf qu'il y en a quelques-uns entre-temps qui sont partis. Et puis, on a commencé à travailler. Ils ont choisi chacun un instrument, celui qu'ils voulaient. Alors, Erika a choisi parce qu'elle avait découvert le piano dans la gare. Jessica, parce que son grand-père faisait du violon. Il y en a un autre qui a choisi. Bon, ils avaient tous des raisons un peu mystérieuses ou personnelles. Puis, je leur ai amené un professionnel qui a travaillé avec eux une fois par mois, avec leur instrument. Et puis, petit à petit, c'est quand ça a grandi. Puis après, je suis allé dans un lycée. Ils ont une capacité incroyable, c'est que dès qu'ils voient un piano, on peut pas rester silencieux. Il faut qu'ils en jouent tout de suite. Je trouve ça assez extraordinaire. Bon, mais c'est casse-pied dans la répétition, mais c'est jubilatoire dans la vie. Et puis après, je suis allé voir un lycée, puis après je suis allé voir les conservatoires, puis après je suis allé voir des professionnels. Puis voilà, comment se construit un projet, hein. C'est que c'est par le désir de rencontrer des gens. Et puis petit à petit, on s'est retrouvé 140, quoi. Et ça s'est passé de façon un peu spontanée, c'est-à-dire que quand on commence un projet, on regarde en fonction de la thématique qu'on a, qui on sollicite, et puis on y va. Et puis on convainc les gens d'y être, quoi.
On décide et on construit sur le papier son projet, ou le projet s'élabore avec les autres, avec les dans la rencontre.
Alors c'est ça qui était particulier, c'est qu'il y a eu une phase expérimentale en fait pendant un an. C'est que moi je suis arrivé les mains vides et je leur ai présenté des instrumentistes et j'ai interdit les professionnels d'être pédagogues. J'ai dit, vous êtes pas là pour leur apprendre un instrument. Ils ont assez de pédagogues dans leur vie, ces pauvres enfants qui d'ailleurs disaient sans arrêt, les adultes décident de tout. C'est quand on est dans la rue, on a un comportement qui est imposé par la civilité, la police, etc. À la maison, c'est les parents, et à l'école, c'est les professeurs. Donc nous, on décide jamais de rien. Je leur ai dit, bon, mais là, maintenant, vous décidez, vous avez en face de vous un adulte, vous allez construire avec lui une relation qui n'est pas une relation d'enfant à adulte, une relation d'égal à égal, vous allez vous tutoyer et j'interdis à l'adulte de vous apprendre quoi que ce soit. Donc vous allez chercher nos relations. Voilà. Et puis c'est ce que vous voyez un peu, cette espèce de relation. Et évidemment, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'ils voulaient tout de suite jouer de l'instrument de qu'ils avaient choisi. Moi, je pensais qu'ils allaient pouvoir... Vous n'avez pas vu une autre partie où, par exemple, une jeune fille a choisi la cora, donc je lui ai trouvé un musicien malien qui joue de la cora, et je leur ai dit, bon, il n'y aura qu'un instrument pour deux. Je veux pas que tu apprennes un instrument. L'idée, c'est qu'est-ce que la relation tu auras avec lui. Donc, on a choisi une relation par rapport à l'instrument. Donc, elle joue par-dessus lui, ils se mélangent, ils sont ensemble, elle presse l'instrument, elle l'empêche de jouer, en même temps, elle lui tend, elle l'enlève. Il y a toute une relation et on apprend cette relation physique très organique autour de l'instrument qui est le rapport humain. Ça s'est passé de façon expérimentale, c'est-à-dire que je suis passé par des phases de recherche, ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Après, quand ils voulaient absolument apprendre un instrument, ben voilà, Jessica, je lui ai trouvé un violon parce qu'il fallait absolument pas la frustrer. Mais c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, en fait, parce que en lui donnant un instrument sans qu'elle ait fait de conservatoire, j'en fais quand même une amateur. Enfin, elle fait ce qu'elle peut, bon, elle s'en sort pas trop mal, mais on ferait 100 fois mieux avec une jeune fille de son âge en 3e cycle, quoi. Bon. Mais bon, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Mais ce qui m'intéressait, c'était que ça se construise au fur et à mesure. Puis pendant ce temps-là, moi, je lisais des bouquins. Je lisais Derrida, je lisais Platon, je lisais tous ceux qui ont écrit sur le désir. Et puis, je contactais des philosophes, Bertrand Ogilvy, Luc Carton en Belgique, etc., pour travailler sur la question du désir. Et puis, je faisais des entretiens avec eux en leur disant c'est quoi le désir ? Ben, y a des enfants qui m'ont dit, ça veut dire quoi ? Je dis, ça veut dire, par exemple, l'envie. Et tout de suite, il y en a un qui m'a dit, oh, mais ça, je peux pas te le dire. Donc j'ai compris que voilà, c'était l'intime. Et puis que les désirs, on ne dit pas ce que c'est. Donc je lui ai dit, mais moi je ne veux pas savoir ce que vous désirez, je veux savoir comment ça se passe quand vous désirez. Donc c'est quoi cette énergie que vous avez en vous et que parfois vous êtes obligé de contraindre à cause des adultes ou à cause de vous, parce que vous n'osez pas, je vois comme là, ils n'osent pas, par exemple là, vous avez fait la photo, ils se sont mélangés, ils se sont pris bras dessus, ça fait 4 répétitions qui ne se touchent pas les jeunes, là, les garçons et filles. Donc, je les vois pour la première fois en train de se mélanger. Bon, parce que c'est le corps à cet âge-là, c'est un apprentissage énorme, mais pourtant c'est par là que passe le désir. C'est pas du désir sexuel, hein, c'est du désir de sentir l'autre et qu'est-ce que je fais de l'autre. Finalement, l'autre c'est une partie de moi. Moi, je suis un autre, mais qui suis-je? Moi, d'un coup, j'ai mes seins qui poussent, j'ai des poils qui commencent à m'arriver sur la figure. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qui suis-je? Est-ce que je vais savoir ce que je vais devenir? Et commence à se projeter sur des images. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe à la mu, c'est incroyable. Qui parle comme ça. Et du coup, on est plusieurs. On est plusieurs à parler. Et on ne sait pas ce qui nous arrive. Et c'est un moment formidable. J'avais envie de leur donner une création pour vivre ça, quoi. Et que nous, on se rappelle que en les regardant, qu'il y a eu tout ça qui nous est arrivé et qui pourrait nous arriver encore si on prenait le soin de se réveiller un peu.
Et là, le spectacle, puisqu'on parle de spectacle, à un moment donné, on va vers un spectacle. À quel moment ça se cristallise, cette idée de rassembler tous ces acteurs dans un même lieu, dans une durée?
Alors, au bout d'un moment, quand on expérimente, au bout d'un moment, on plafonne. Enfin, on a des bonnes idées, on a des mauvaises idées, on a trié, on a envie de développer les bonnes idées. Donc là, moi, je passe à une phase d'écriture, je leur écris une partition. Il parlait d'improvisation, il y a très très peu d'improvisation. Si je vous montre la partition, il y a quelques dessins, mais c'est très rare. Hein. Mais c'est marrant qu'il en parle parce qu'il a l'impression finalement d'inventer la musique alors qu'elle est complètement écrite. Ça m'a fasciné parce que de certaine façon j'étais un peu vexé qu'il parle d'improvisation et en même temps je comprends que ce qu'il veut dire c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire qu'il a l'impression que c'est sa musique. C'est-à-dire qu'il se l'est complètement approprié parce qu'on l'a travaillé, parce qu'on l'a réfléchi ensemble et que, après, moi, j'ai écrit des notes précises et il joue des notes. Enfin, surtout les deux garçons, là, qui sont des élèves du conservatoire, ils jouent vraiment les notes que j'ai écrites pour eux. Mais ils ont le sentiment que c'est encore leur note. Et donc, j'ai fixé les choses. Et puis maintenant, alors, on est sérieux, on est revenu dans un monde un peu adulte, là. Je leur dis, allez, maintenant, les garçons et les filles, là, il va falloir faire ce qui est écrit. Et puis, il va falloir le faire exister physiquement. Il faut, quand vous faites un truc, il faut que nous, on sente que vous êtes en train de le faire, que vous le désirez, que vous êtes bien dans votre peau, et puis s'il y a un truc que vous n'aimez pas faire, comme la jeune fille Jessica qui n'arrive pas à dire oui, bon, je vais pas l'embêter, hein. Si elle n'arrive pas à dire oui, ben, voilà. elle arrive pas à le faire parce que c'est une fille qui normalement parle très fort, qui crie, puis là tout d'un coup c'est sur scène, donc voilà, il y a un sentiment d'exhibition qu'elle supporte pas. Bon, on va le gérer. Maintenant c'est du sérieux, et maintenant ils sont artistes sur scène et il va falloir qu'ils y aillent. Mais je pense que c'est pas mal déjà. Hein.
Choisir comme lieu ce lieu avec le nom qu'il a. Est-ce que ça a un sens ?
Alors justement, c'est très particulier parce que c'est un lieu qui n'est pas très, disons, porteur pour le grand public. Hein. Quand on dit grand public, dans les journaux, venez, on va faire un truc à la Maison des Sciences de l'Homme. Les gens disent, attends, la Maison des quoi ? C'est-à-dire si on parlait du Zénith ou qu'on parlait de, je sais pas quoi, ou de l'Opéra Bastille, les gens comprendraient. Mais là, Maison des Sciences de l'Homme, on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors évidemment, nous sommes dans les Sciences de l'Homme, hein, la question du désir, la question de la. Alors pourquoi j'ai choisi ce lieu ? D'abord parce que c'est un lieu qui est en plein territoire de la Plaine Saint-Denis, qui est donc un espèce de paradoxe. D'un coup, on a un lieu de laboratoire, un lieu où il y a des gens qui un lieu de recherche, qui est en plein milieu d'un territoire avec des habitants qui sont très loin de cet univers. Et ce lieu recherche, enfin Alain Berthaud, son directeur, et d'autres gens autour de lui, sont à la recherche de liens avec le territoire. Et d'ailleurs, il le travaille beaucoup, le lien. Il s'arrange pour que les gens de plus en plus viennent ici pour voir des événements, pour réfléchir. Et de même qu'il pousse beaucoup les chercheurs, soit de Paris 8, Paris 13 ou d'ici, à ne pas chercher complètement en l'air et à chercher aussi au centre du territoire, c'est-à-dire à relier la recherche à la vie quotidienne. Donc oui, je trouve que j'ai ma place ici. Enfin, je pense que c'est pas mal de faire ça ici. Avec la difficulté médiatique, on va dire, mais c'est un peu accessoire, mais que ça ne parle pas aux gens en fait tout de suite. Quand on parle des sciences de l'homme, on ne sait pas très bien ce que c'est. Les sciences sociales, on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais pourtant, c'est ça. Pour moi, la culture, les arts, ce sont des sciences sociales. C'est aussi de la science. Parce que c'est un travail, c'est une écriture, c'est une interprétation. Et puis, parce que c'est... D'abord, parce qu'on est des professionnels, voilà. Donc, il y a quelque chose de scientifique dans ce qu'on fait. Et puis, dans la science, il y a de la recherche, il y a du hasard. Il y a de l'indécision, il y a du doute. Les sciences, c'est pas exact, hein, surtout les sciences sociales, quoi.
Est-ce qu'ils ont rencontré les jeunes musiciens, ces gens qui occupent ce lieu ? Ils ont pu les croiser ?
Alors, jusqu'à maintenant, pas beaucoup. Mais j'espère que ça va venir avec les concerts, parce qu'ils vont être très présents. Et puis, on a fait une bonne communication auprès des facultés. J'espère qu'ils vont les rencontrer et que ça va effectivement arriver. Parce que pour l'instant, on est plutôt dans notre construction, là. Hein. C'est pas... Et puis, le lieu, vous savez, la recherche, c'est assez... C'est assez étanche en fait, hein. C'est assez silencieux. Ils sont dans des laboratoires, dans des salles, quand ils font des réunions, ils sont entre eux, un peu comme nous, on est entre nous, hein. Donc ce travail de lutter contre l'étanchéité, il va prendre un peu de temps. J'espère que cette période de concert va le permettre.
Dernière, H2H, ça veut dire quoi ? Moi, je vois bien H2O, mais H2H.
Alors, c'est le nom du LABEX. Le LABEX, ça veut dire Laboratoire d'Excellence. Hein, ça rassemble le principe du LABEX, c'est que ça rassemble des instituts, des universités ou des centres. Bon, par exemple, le LABEX H2H, il rassemble les Archives Nationales, le CRA 93, le Centre National de la Danse, Beaubourg, Paris 8, Paris 13. Et donc, c'est des gens qui se mettent ensemble avec plusieurs disciplines pour réfléchir à des sujets. Par exemple, la relation entre l'art et la technologie. Par exemple, la relation entre l'art et la vie quotidienne. Bon. Ils ont plusieurs thématiques et ils essayent de travailler ces thématiques en croisant les disciplines. D'où l'intérêt d'être plusieurs organismes entre eux. Et ils sont toujours évidemment très demandeurs que ces disciplines rencontrent les habitants, le territoire. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ma place. Alors, j'y ai trouvé une place dans les contenus, dans le modus vivendi, dans le mode de travail. J'y ai pas tout à fait trouvé ma place dans le mode de recherche, parce que eux, ils sont vraiment axés sur la recherche. Et moi, je suis très atypique en matière de recherche. Et donc, par exemple, quand mon dossier a été présenté au LABEX, ils l'ont pris en disant, ben oui, ce qui fait, ça nous concerne. Mais ils ont regretté que je produise pas des documents de recherche, parce que moi, je suis pas un universitaire. Et je ne sais pas traduire la recherche que je fais, qui est une réelle recherche, je ne sais pas la traduire d'une façon universitaire. Parce que c'est un langage particulier, parce que c'est une méthodologie, on pose des bases et puis après on les développe, etc. Ça, je suis trop, je sais pas, trop empirique, trop artistique, trop idéologique aussi, trop, je sais pas, je n'arrive même pas à me contrôler moi-même.
Oui, mais ça marche.
Mais ça marche, voilà.
Merci.
Je vous en prie.